Messieurs, dames, bonjour. Je suis très heureuse, très honorée d'être ici pour vous faire une présentation sur un sujet assez difficile. Quand David, qui est là, m'a proposé il y a de ça un mois de faire cette présentation sur la territorialité de l'action publique et en particulier dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale, j'étais très, très heureuse et en même temps très hésitante. Bon, bien sûr, ça fait 15 ans que je travaille dans les territoires, pour les territoires. J'en ai observé leur articulation parfois, leur enchevêtrement souvent, leur équilibre instable très, très fréquent. Et donc, je peux parler des territoires, mais alors dès que les territoires sont associés à la santé mentale et à la psychiatrie, là, je suis beaucoup plus intimidée. David insiste de son enthousiasme joyeux en me disant « mais pourquoi ce blocage ?» Et du coup, pour venir ici un peu moins bégayante, j'ai dû travailler sur les raisons d'une telle intimidation par rapport à ce thème des territorialités dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. Et trois grandes raisons me sont apparues qui me paraissent intimidantes pour approcher ce sujet. D'abord, c'est le poids de l'histoire de l'organisation territoriale dans le domaine de la psychiatrie, vous l'avez rappelé. Et c'est une histoire bon, sur laquelle on reviendra que très rapidement ici, mais qui est intimidante. C'est une épopée, c'est un roman. C'est voilà. Donc il y a cette dimension-là. L'autre dimension qui est la complexité en réalité du domaine et de l'organisation de la psychiatrie et de la santé mentale. La complexité et la faible lisibilité. On le verra, vous avez parlé d'accès aux données tout à l'heure sur les bonnes pratiques, mais d'accès aux données généralement sur ce domaine. On verra, c'est également un sujet. Et enfin, le dernier élément d'hésitation ou d'intimidation par rapport à ce sujet, c'était la question de l'impossible découpage ou de la difficulté des découpages. Dès qu'on parle de territorialité et de découpage, on est tout de suite avec un crayon pour découper et tout de suite avec la gomme pour gommer ce qu'on vient de faire en disant « ah ben non, là ça cale pas, là ça cale pas ». Donc c'est des questions assez difficiles et donc je prétends ici que introduire cette journée et peut-être mettre sur la table un certain nombre d'expériences et de réflexions que j'ai pu avoir sur le sujet. Je ne reviendrai pas sur l'histoire, hein, sur cette histoire, cette épopée de la sectorisation en psychiatrie, si ce n'est pour rappeler quand même, parce que je pense qu'il y a une actualité particulière aujourd'hui sur cet ancrage-là, c'est l'ancrage dans le mouvement de la médecine hygiéniste et de la médecine de l'hygiène mentale. Et ça, dans les années, donc avant la sectorisation à proprement parler, avant 1960, mais dans l'entre-deux-guerres, cet ancrage-là en dit beaucoup quand même sur l'importance de l'ancrage du secteur dans le quartier, l'importance de la vision aussi de l'équipe qui a prévalu à cette idée de sectorisation, une équipe non hiérarchisée, une équipe où le psychiatre n'est rien sans l'assistante sociale, ou une équipe où le psychiatre est aveugle sans voir le domicile du patient. Toutes ces idées-là qui paraissent aujourd'hui finalement d'une grande modernité et d'une grande pertinence, non seulement sur les soins somatiques, psychiatriques ou psychiques, mais aussi aujourd'hui, ce sont des thèmes qui viennent sur les soins somatiques. On a besoin d'ouvrir la médecine et l'approche de la médecine à l'environnement des patients qui sont traités. Donc c'est voilà, c'est le rappel que je voulais faire sur, très rapidement sur sur cette histoire, parce que je vais pas prendre trop de temps. Alors la définition du secteur qui a été donc qui est le fondement de l'organisation de la psychiatrie, le fondement c'est avant tout le refus de la ségrégation, de la politique asilaire, et donc le contre-pied de ça c'est l'intégration qui est le maître mot en fait de l'organisation sectorielle. L'intégration de la maladie mentale dans l'ensemble de vie où elle émerge, j'en parlais tout à l'heure. L'intégration, c'est aussi celle de la subordination de l'hôpital psychiatrique à la totalité des réseaux et des institutions et équipements d'hygiène mentale. Ici, on a un rapport inversé en réalité, hein, dans cette version-là, où l'hôpital est au service d'eux, mais pas en première ligne sur. Et ça, je crois que c'est un élément important dans la philosophie, dans les principes, dans la vision de l'organisation sectorielle. L'implantation de l'équipe de secteur dans le milieu social de réel, bon ça je l'ai dit. Et enfin, un élément sur lequel on reviendra qui me paraît important, c'est que finalement le territoire et le découpage sur lequel finalement tout le monde se crispe et tout le monde travaille, enfin en tout cas c'est, dès qu'on parle de territoire, c'est ces questions de découpage qui sont au cœur. En réalité, la philosophie pourrait penser du secteur pourrait mettre le territoire à proprement parler en seconde ligne derrière la question de la constitution d'une équipe de travail, d'une équipe qui se coordonne, d'une équipe qui se connaît, d'une équipe qui connaît ses pratiques, d'une sorte de communauté professionnelle, on pourrait appeler ça un peu comme ça. Et c'est en fait en quelque sorte les impératifs de cette organisation-là qui vont définir le territoire du secteur. Après, voilà. Donc ça, je trouve que c'était aussi une idée qui me paraissait assez intéressante à mentionner dans les grands principes qui ont fondé le secteur. Toujours est-il que le secteur aujourd'hui, enfin la sectorisation en psychiatrie telle qu'elle s'est mise en place à partir des années 60 et puis réaffirmée dans les différents textes, a conduit à une organisation aujourd'hui qui est, je le disais, moi j'ai du mal à l'aborder, qui est toujours un peu ambivalente. D'abord, elle est très complexe. C'est une organisation complexe, fait quelques cartes qui... Hein, puisque on est, ici, c'est la carte où il y a juste les établissements qui sont subordonnés à leur réseau, hein, les centres hospitaliers de santé mentale, leur garde rapprochée, hein, donc tous les dispositifs de CMP, de CATTP, etc. Et puis, finalement, tout le reste de l'offre, tous les autres dispositifs plus ou moins spécialisés qui viennent se greffer. Et là, on est uniquement dans le secteur sanitaire. Donc, pour garder des frontières, il faudrait, pour aborder ce secteur-là, faire des cartes des femmes, des masses, des SAVS, on en parlait tout à l'heure, de tous les services médico-sociaux auxquels font appel les professionnels du secteur de la psychiatrie. Donc, voilà, on est dans une organisation qui a une grande complexité. Là, outre les petits points et que c'est très joli, mais ce que dit cette carte aussi, c'est la grande variété des configurations territoriales qu'on y lit. On le voit à peine là, mais on voit quand même en Bretagne très peu de points bleus, très peu de CMP, bizarrement. Est-ce qu'ils sont mal renseignés, est-ce qu'ils passent, parce que hein, voilà, ils sont probablement mal renseignés, mais c'est quand même révélateur de la difficulté qu'il y a aujourd'hui à lire l'organisation de ce secteur d'activité. et à décrypter. Alors, si c'est difficile pour nous, j'imagine pour les usagers, alors là, c'est très, très, très compliqué. J'ai voulu faire des cartes. Moi, je fais des cartes. J'ai voulu faire des cartes des secteurs de psychiatrie. Il n'y a pas de données nationales collectées, agrégées, qui donneraient aujourd'hui l'état des découpages qui existent. C'est quand même, voilà. Donc, on va parler de territorialité en psychiatrie, mais on ne sait pas sur quelle base, base on part. Voilà. Donc, ça, c'est des cartes pour rigoler, mais, il n'empêche qu'il y a un travail beaucoup plus sérieux et qui a été, réalisé dans le cadre de l'IRDES, par notamment Magali Goldefi, Philippe Le Fur, mais enfin, Magali Goldefi est en tête en tête de compétences sur ces sujets, et c'est elle qui aurait probablement dû intervenir ici aujourd'hui, parce que vraiment elle a longtemps travaillé sur ce thème-là. Et il ressort, alors c'est une étude qui est pas très récente, mais qui est très très bien faite, puisqu'elle elle couvre non seulement le secteur de la psychiatrie, mais aussi le médico-social, l'analyse de la démographie des professionnels, pas seulement des médecins ni des médecins psychiatres, mais aussi de l'ensemble des professionnels paramédicaux, etc. Ce que montre cette étude, c'est la grande donc c'est elle montre des configurations en neuf configurations territoriales qui se distinguent statistiquement selon les configurations de l'offre et l'organisation qu'a pris cette offre. Et ce qui ressort de cette... On peut en tirer beaucoup, beaucoup d'autres enseignements. Ce qui m'est apparu, en tout cas ce dont j'avais envie de parler au sujet de cette recherche, c'est que le développement des alternatives d'hospitalisation à l'hospitalisation complète est quand même, malgré tout, assez clairement... développé plus systématiquement quand dans les territoires où on a des dotations qui sont relativement confortables, en tout cas un peu au-dessus de la médiane, et qu'en revanche dans les territoires qui souffrent de moyens véritablement dans les moyens sur lesquels les moyens sont relativement faibles, alors il y a de grandes difficultés à développer les alternatives à l'hospitalisation. Donc même si les moyens ne font pas tout, il y a une sorte de seuil. On a l'impression qu'en deçà d'un seuil, il est difficile quand même d'être dans le mouvement et dans la projection sur le territoire. Et on a des services qui peuvent être en quelque sorte avalés par les soins somatiques dans les hôpitaux dans lesquels ils se trouvent, et avoir des difficultés à trouver les relais sur le territoire. L'autre enseignement, c'est les très forts contrastes des professionnels de santé sur le territoire. Et ça, j'y reviendrai pas. C'est pas une spécificité de la psychiatrie, mais la psychiatrie est quand même l'une des spécialités qui est assez en souffrance sur ces questions de démographie médicale, et qui posera à terme probablement des questions. Et malgré que la psychiatrie soit aussi très innovante dans sa manière de fonctionner sur les questions de délégation de compétences, etc., et probablement a beaucoup, beaucoup à apprendre, mais il n'empêche qu'on a de fortes inégalités là-dessus. Et donc ça aussi, c'est un déterminant de la manière dont on peut fonctionner et dont on peut permettre l'accès aux soins sur les territoires. Et enfin, des pratiques locales, donc, qui sont analysées dans ces différents types de configurations, qui sont variées, et dont un des déterminants importants, c'est aussi la présence précisément d'équipements complémentaires de type médico-sociaux sur le territoire. Donc, ce que je souhaite dire à travers cette report là de cette recherche de Magali Goldefi, c'est surtout que on reste la sectorisation n'a pas permis, en tout cas, d'homogénéiser l'offre sur le territoire national. C'est une recherche qui est assez ancienne. Et à l'heure où tout le monde va faire des projets médicaux de territoire en santé mentale avec des diagnostics territoriaux partagés, il nous semble que ce type de méthodes, qui sont des méthodes comparatives où un territoire n'est pas vu pour lui-même, mais aussi en comparaison avec les autres, puisqu'on sait... On est mal doté, on est bien doté, ben ça dépend aussi de ce qui se fait, de ce qui se fait ailleurs. Il nous paraît que ce type d'analyse peut être mis en discussion de manière très intéressante dans le cadre des projets médicaux de territoire et aurait tout lieu d'être réactualisé avec des données qu'ils ne sont. Pas facile, je le répète, à mobiliser parce qu'elles sont dispersées, émanent de différentes sources et sont pas faciles à collecter. Alors, pour accélérer un petit peu, et je m'excuse, oui, je vais être en retard, donc pour accélérer un petit peu les grands enjeux en termes d'évolution de la territorialisée en psychiatrie, c'est évidemment la première chose, c'est son adaptation à l'évolution de la géographie de la France des 30 dernières années, avec les grands mouvements qu'on connaît de littoralisation, métropolisation, périurbanisation, etc., qui fait que on est aujourd'hui, et les travaux présentés tout à l'heure le montrent, on est aujourd'hui avec une histoire de la psychiatrie qui parfois pèse aussi, qui est un peu inertielle sur ses capacités d'adaptation, et donc la qualité de l'implantation finalement des équipements doit être questionnée. Si la géographie bouge, évidemment ces établissements, enfin les implantations, les équipements doivent bouger aussi. Donc ça, c'est assez classique, mais c'est un élément important et qui peut-être pose des difficultés particulières dans le secteur de la psychiatrie, puisque par définition, c'est un secteur qui est ancré sur son territoire, dont le fonctionnement est ancré sur son territoire, si on en croit ce qu'on lit. Et donc cet ancrage territorial, c'est à la fois sa force pour la qualité des soins et du suivi et de la permanence et du dépistage qu'elle permet de faire. Et en même temps, c'est peut-être un frein ou un élément d'inertie pour son évolution, parce qu'on se déracine pas comme ça, on déracine pas comme ça une organisation pour la mettre ailleurs. En tout état de cause, ça se fait, mais ça se fait. Il faut des compétences managériales qui sont très spécifiques, qui sont très particulières et qui sont parfois sous-estimées, parce qu'on ne manage pas une organisation qui est sur un territoire fermé, comme une organisation qui est dispersée sur le territoire. C'est des capacités managériales assez différentes. La seconde grande évolution, évidemment, c'est le vieillissement de la population qui fait émerger des problématiques nouvelles et plus généralement qui appelle, ça c'est un appel, mais il y a plein d'autres raisons, qui appellent au rapprochement de la psychiatrie et des soins somatiques pour à la fois dans les deux sens, c'est-à-dire pour que la psychiatrie se rapproche des problématiques que rencontrent les médecins dans les différentes institutions ou auprès de leurs patients, et inversement pour l'accès aux soins somatiques des personnes en souffrance psychique. Alors, quelle territorialité pour la psychiatrie ? Je continuerai là-dessus, je mets des S partout, parce qu'en fait, et du reste, ce petit travail d'introspection sur la psychiatrie me fait dire que finalement, c'est pas très différent en psychiatrie qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des territoires, les premiers territoires, le premier bloc, c'est celui des habitants, évidemment, de la population, des habitants. Il est reconnu aujourd'hui que l'espace où on est relativement bien, c'est un espace qui doit être à peu près celui de ce qu'on appelle du bassin de vie, qui est à peu près 1h, 45 minutes de voiture. Au-delà, finalement, ben, l'individu, bon, bien sûr, on peut aller au théâtre ou à l'opéra ou de temps en temps à prendre le train et élargir son espace. Mais l'espace de vie, celui où on vit quotidiennement, c'est un espace qui est à peu près celui du bassin de vie. Il y en a 1900 et quelques en France. On voit sur cette carte que ces bassins de vie, ne malheureusement pour nos régulateurs, ne suivent pas très exactement les découpages départementaux. Et donc, désolé, mais il y a des bassins de vie qui sont à cheval sur des départements, et ça, c'est très embêtant pour l'organisation et la planification des soins. L'autre territorialité, c'est le territoire pour les organisations. Le territoire pour les organisations, les établissements, les services, c'est un territoire qui est d'abord un espace de travail. C'est un espace de travail, c'est aussi un espace de ressources où on va chercher soit des coopérations, soit des personnes compétentes, soit des recrutements, etc. Donc c'est un espace de coopération, un espace de ressources, et c'est un espace qui peut être aussi, disons-le, un espace de concurrence selon la densité du nombre d'établissements qu'il y a. Bon, dans le secteur de la psychiatrie, on est peut-être un petit peu... protégé de cette, enfin un petit peu en dehors de ce jeu-là, mais toujours est-il que on est sur des espaces où les échelles pour une organisation un peu fluide me paraissent difficilement pouvoir aller au-delà de ce qu'on appelle les zones d'emploi. Il est difficile de penser créer des équipes au sens qui fonde l'organisation, hein, de ce qu'on disait, c'est-à-dire des gens qui se connaissent, se reconnaissent, ont des complémentarités de compétences, savent se coordonner, développer des routines organisationnelles, hein, qui permettent d'être réactifs, etc., et tout en étant à l'initiative des besoins. Donc, une organisation de ce type-là, elle est difficile à manager, je dirais, ou à mettre en place. Elle est confortable à l'échelle d'une zone d'emploi, parce que c'est l'échelle de mobilité quotidienne du travail au lieu de travail, au lieu de vie. Et donc, c'est à peu près ce qu'on peut faire. Si on pense à des organisations qui sont sur des territoires plus larges, alors les choses peuvent être plus compliquées à gérer du point de vue de la coordination. Et enfin, le troisième territoire, c'est celui de l'administration. J'appelle administration le régulateur qui peut, selon les spécialités, être différent, l'État, l'ARS, les départements, et qui donc, pour lui, pour l'administration, le territoire, c'est plutôt un espace de... un contenant, un espace de d'allocation de ressources à différentes organisations, et c'est aussi un espace de mesure des besoins. Voilà, donc on doit mesurer des besoins sur cet espace-là, sur les territoires, et on doit inciter, allouer, orienter les ressources vers la réponse à ces besoins. C'est le propre de la planification, de la programmation, de l'anticipation prospective. Alors, enfin, je voudrais mentionner deux éléments importants. C'est, à mon avis, à ne pas confondre. Le premier, c'est qu'il y a deux types de territoires, hein, des territoires pour agir, des territoires pour se concerter et décider. C'est pas les mêmes. Les territoires de l'action, ce sont des territoires où on travaille, où on se coordonne et où on parvient à former des équipes, etc. La constitution de ces territoires, là, bon, c'est une présentation sur les grands enjeux qu'il y a à construire ces territoires de manière assez dense. Les enjeux, c'est les inégalités d'accès aux soins, l'accessibilité géographique sur laquelle il faut faire attention, et donc mailler le territoire par des soins de premier recours et des modalités d'accès, des premières pierres d'accès qui soient bien présentes partout sur le territoire, et puis la continuité des parcours avec, alors là, des niveaux peut-être plus élevés, des liaisons avec des établissements, avec de l'hospitalisation, etc. Donc on a différents enjeux, différents leviers d'action. Je voudrais notamment parler des contrats locaux de santé, contrats locaux de santé mentale, qui sont les outils aujourd'hui mis en place pour fédérer pour fédérer les différentes modalités de financement qui peut y avoir autour d'un projet territorial, mais aussi qui sont les lieux sur lesquels, à mon sens, on retrouve le secteur dans l'esprit du secteur, dans l'esprit de ce qui avait été, avec la participation, un esprit de participation communautaire où les usagers, les associations jouent un rôle premier et essentiel dans le développement des dispositifs, leur animation et leur leur appropriation par les habitants. Très important pour ce qui concerne et donc ça, ce type de d'organisation, il est calé quand même plutôt sur les quartiers, donc les communes. Hein, en termes d'instances d'autorité, hein, sur les communes ou les intercommunalités selon les configurations territoriales. Et puis les territoires pour décider, c'est d'autres types de territoires. Ce sont des territoires où peuvent être mises en place des instances de concertation. Alors, intégrant de plus en plus avec les territoires de la démocratie sanitaire dans le cadre de la loi de modernisation de santé, intégrant de plus en plus effectivement les représentations des usagers, mais qui doivent pas être là de manière fictive, qui doivent être là de manière pas artificielle, mais de manière réellement intégrée. Et puis, les instances de décision, ce sont aussi donc voilà, on se concerte, mais à un moment ou à un autre, il y a la décision, une décision qui est prise. Et les instances de décision, elles sont à la fois multiniveaux et elles sont nécessairement aussi en matière de santé mentale et aujourd'hui en matière de santé de plus en plus, on le voit, elles sont intersectorielles. Elles sont, on ne peut plus parler de santé sans parler de transport, sans parler de conditions de logement, sans parler, on peut difficilement aborder les questions de santé sans parler d'éducation, etc., etc. Donc, on a tout un éventail de partenariats à créer, et c'est dans ces instances de gouvernance aussi que doivent être soudés ces partenariats. Avec, disons, une sorte de vigilance à éviter les comportements de... C'est pas « not in my backyard », mais c'est « not in my budget ». Voilà, il y a quand même, à un moment ou à un autre, on ne peut pas parler d'approche globale, d'approche globalisante, d'approche de préventive, etc. Donc, sur des champs qui sont forcément mouvants, avec des nosographies d'intervention qui restent cloisonnées et qui ont du mal à se partager les coûts des ambitions qui sont données. Bon, voilà, ça c'est une remarque tout à fait personnelle. Et donc pour conclure. Là, au bout de cette introspection, je m'aperçois que effectivement, quand même, les territoires, les territorialités de la psychiatrie et de la santé mentale ont toutes les raisons d'être intimidantes, parce qu'elles sont, comme vous le disiez tout à l'heure, madame, elles sont belles. Il faut être fier de cette histoire, de cette épopée qui est racontée, même si les ambitions n'ont pas toutes été atteintes, elles sont enthousiasmantes. Elles sont aussi une expérience sur laquelle aujourd'hui le volet somatique, le volet somatique des soins a tout intérêt à regarder de plus près de ses réussites et de ses limites. Il nous paraît de ce point de vue-là effectivement que la santé mentale a un rôle particulier. elle doit être peut-être plus dedans que dehors aujourd'hui. Elle a toujours eu cette ambivalence, j'y suis pas. Enfin, elle joue un peu sa, je m'excuse de vous dire ça comme ça, mais elle joue un peu sa starlette. Bon, voilà, la santé mentale, c'est aujourd'hui un volet du SROSS. Aujourd'hui, il y a, je crois, 40% des GHT seulement, je dirais, qui intègrent un CHS. Donc, voilà, c'est aujourd'hui il faut arrêter. Je pense que la santé mentale doit être plus étroitement connectée et articulée au reste de la santé. Elle en est ça ne la dévalorisera en rien et au contraire la diffusion de son expérience ne pourra être que plus bénéfique. Et enfin. Là, peut-être un des enseignements qu'on peut avoir de l'évolution du secteur et de la manière dont il a été un petit peu vidé de sa substance quand même au fil du temps, il s'est un petit peu perdu en chemin, c'est par cette distinction peut-être entre les territoires de la décision, de la programmation, de l'équipement d'un côté et les territoires du travail, de l'équipe. Du quartier, de la connexion au bassin de vie, enfin des territoires de proximité, de communauté, je dirais, qui aujourd'hui, peut-être avec les outils nouveaux, peuvent se faire à des échelles finalement variables. Et en fait, quand même, la distinction de ces deux territoires mérite d'être réfléchie et leur articulation et le territoire de la décision, c'est celui de la gouvernance, doit accompagner. Celui où les acteurs agissent et où les habitants vivent.